Bonjour, bienvenue à Aime l'été. Bon mardi à vous tous, ici Chantal Lavoie. Une belle émission qui vous attend ce 8 août. Toujours une diversité de sujets, toujours de belles découvertes et des rencontres intéressantes. L'été ne manque pas d'activité malgré une météo capricieuse, faut le dire. Hein. Mais qu'à cela ne tienne, oui, on plonge dans le monde des odeurs aujourd'hui. On file encore une fois vers différentes régions du Québec. On va prendre des nouvelles de Rouyn-Noranda dans le cadre d'un autre festival très attendu. Également, on met le cap sur Petit-Saguenay, où on présente un festival culturel qui suscite réflexion et discussion en même temps. C'est un plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien jusqu'à 13h. Suivez-nous à Aime l'été. Et aujourd'hui au programme, de façon plus détaillée, on s'intéresse au monde du parfum, mais plus spécifiquement aux parfums artisanaux. On accueille une artiste peintre qui s'est lancée dans la création et la fabrication de parfums dans les cantons de l'Est. Une belle incursion dans ce monde fascinant de la parfumerie artisanale avec Alexandra Bachand. Aussi, après 5 ans d'absence, il sera question du festival Virage à Petit-Saguenay qui s'intéresse aux enjeux sociopolitiques et environnementaux, réflexion et discussion au programme, mais aussi présentation d'un volet culturel, un événement familial en même temps. On en discutera avec Marie-Andrée Gill, résidente du village d'accueil de Virage, et Yann Seggers, cofondateur oui, du festival. Mais dans un instant, cap sur Rouyn-Noranda, où nous attend un autre événement, le festival Osisco, festival de musique réunissant musique pop, électronique et art rock. J'accueille dans les prochains instants Vanessa Breton, c'est ça, Vanessa Breton, qui est directrice du CA. Alors, on en parlera avec elle. Voici donc pour la prochaine heure le menu de Aime l'été. Eh bien oui, j'accueille Vanessa Breton. Bonjour.
Oui, bonjour. Ça va être Frédéric Roy, désolé.
Ah, d'accord. Bon, parfait. On m'avait indiqué un changement de dernier moment. Finalement, ben non, c'est Frédéric Roy Hall. Vous êtes directeur général de la Corporation des fêtes pour tout le monde. Alors voilà donc cette corporation qui existe depuis un certain temps.
Oui, exactement. Ça fait... Bien, depuis 2004 que le nom légal est bien enregistré, mais ça fait plus de 45 ans là, que cette organisation-là, quand même, travaille à développer des événements dans la région.
Alors vraiment, ben oui, pour tous les citoyens, bien sûr, de cette région de Rouyn-Noranda. On parle du festival Osisco. Osisco en lumière, en fait, bon, c'est comme ça que ça s'appelle.
Exactement, c'est Osisco en lumière. C'est le nom du festival, d'un des festivals qu'on organise, mais c'est aussi là, vraiment notre événement fort.
D'accord. Et donc, 45 ans pour cette corporation des fêtes pour tout le monde, mais aussi 20e anniversaire pour ce festival quand même. Alors, c'est vraiment un événement anniversaire, comme on le dit, là, 20 ans, ça se fête. Et puis, donc, parlez-nous-en de ce festival donc qui réunit de la musique essentiellement, mais enfin, c'est quand même un événement qui se veut familial aussi.
C'est un événement qui se veut familial, mais c'est aussi historiquement un événement de grands feux d'artifice et de pyrotechnie. Qui accueille des artistes internationaux d'année en année. Naturellement, cette année, on a aussi une belle brochette d'artistes comme Three Days Grace, Charlotte Cardin, Dead Mouse, Les Lendemains de Veille et beaucoup d'autres artistes. On parle de 35 artistes et groupes là, qui viennent performer sur nos différentes scènes. Mais on a aussi cette année, on commence davantage pour notre 20e, justement, à développer des programmations davantage visuelles. Donc, on travaille sur ce qu'on appelle une scène immersive qui s'appelle l'Espace Boréal, présenté par Fonderie Horn. Puis c'est vraiment quelque chose de grandiose, là, énormément de lumière. C'est vraiment une expérience qu'on est en train de créer. Là, on est extrêmement fiers là, de sur quoi les équipes travaillent aujourd'hui.
C'est ça, parce qu'en fait, bon, comme vous le disiez, c'était à la base un événement pyrotechnique. Mais bon, c'est sûr que là, on s'entend, Rouyn-Noranda, cette année, ben, vous avez décidé quand même très tôt de ne pas organiser de feux d'artifice. Et ça se comprend parce que là, vous étiez à ce moment-là, de toute façon, touché par les feux de forêt, les incendies. Alors vraiment, ça a été l'événement majeur de l'été. Et écoutez, bon, on sait que les feux, c'est pas terminé encore. Et puis, c'est assez désespérant de voir comment les choses ont tourné finalement.
Oui, absolument. Puis on trouvait qu'il fallait être sensible à ça, puis on l'est nous-mêmes. On ressentait un certain malaise de faire d'annoncer puis de promouvoir tout l'été, même si aujourd'hui on aurait probablement la chance de faire des feux d'artifice avec la température qu'on a. Ça faisait pas de sens pour nous de faire la promotion de feu, tout simplement, durant tout un été, à dire venez les voir, envoyer des publicités, en parler dans le tourisme, etc. Puis on pensait aussi que c'était une belle manière de sensibiliser de juste d'être sensible à la population. Fait qu'on a décidé de tourner ça davantage à donner des billets gratuits, des invitations aux gens qui avaient été touchés par les feux de forêt, des gens qui avaient été les premiers répondants dans les feux de forêt, des gens qui avaient accueilli des communautés aussi, parce que vraiment, là, l'été de pas mal tout le monde a été très bousculé par ça dans notre région. Donc, on trouvait que la sensibilité était peut-être plus importante que l'effet wow d'un feu d'artifice dans le ciel.
Ben exactement, puis vous n'êtes pas les seuls, parce qu'un peu partout, finalement, bon, même à Montréal, on sait que dans un premier temps, là, effectivement, les feux d'Auto-Québec, bon, ont eu lieu, mais quand même, il y en a, ben, le tout premier a été annulé, bien sûr, mais c'est sûr que là, on s'interroge beaucoup sur l'avenir des feux, de ces activités pyrotechniques. Alors, je pense que dans l'avenir, on verra d'autres façons de faire, et puis, bon, on pense à l'avènement des drones aussi. Alors, il y a plein de choses qui s'en viennent, mais c'est sûr que les feux d'artifice, ben, c'est un peu remis en question, et puis c'est sûr que vous êtes particulièrement, oui, comme ça, à Rouyn-Noranda, on comprend que c'est un endroit, enfin, ce sont des endroits où on veut bien sûr éviter que les feux se propagent. Déjà là, avec les changements climatiques, les événements extrêmes, alors on sait que la foudre peut être responsable de feu, alors c'est sûr que de début d'incendie, alors on ne va pas faire exprès, bien sûr. Bon, alors parlons maintenant, c'est ça, de cette programmation musicale qui est effectivement à la fois un peu variée, oui, parce que vous avez quand même aussi de la musique électronique, et puis c'est ça, vous avez, bon, cet événement qui va, enfin, se clôturer par ce grand spectacle de Charlotte Cardin.
Exactement, donc c'est une programmation qui est variée, parce que il faut se rappeler qu'en tant qu'un des plus gros festivals de la région, dans un très, très grand périmètre, là, on parle presque de 600 kilomètres au final, en cette conférence, on se doit toucher tout le monde, tu sais, que tout le monde puisse être servi par un festival, puis que tout le monde puisse se rassembler ensemble. Donc, on fait vraiment des programmations variées chaque année pour que les gens viennent en famille, qu'ils soient autant dans la découverte que dans la nostalgie. On essaye de vraiment toucher toutes les populations. Puis, je vais pas dire bizarrement, mais au final, on se retrouve à vraiment avoir tout le monde tout le temps. Parce qu'au final, les gens sont juste vraiment heureux d'avoir des spectacles à grand déploiement. Et on a beaucoup de tourisme par rapport à ça. Il y a un très, très grand engouement de se retrouver dans un grand événement là à Rouyn-Noranda. Ça rend un sentiment qui donne un côté très urbain durant un week-end là, à notre région.
C'est ça, puis vous êtes très sensible aussi, vous écoutez beaucoup les citoyens, à savoir bon où s'en va finalement la tendance, qu'est-ce que les gens aiment aussi, répondre au public aussi, aux intérêts qui changent avec les années, bien sûr.
Absolument. Je dirais qu'il y a une portion d'écoute, mais il y a aussi une portion de disponibilité. C'est davantage, je me plais souvent à dire que c'est davantage les artistes qui nous choisissent que nous qui les choisissons.
Oui, c'est vrai que là, vous êtes nombreux au Québec à vous disputer de façon de parler, là, de façon amicale, bien sûr, de vous échanger les artistes d'une certaine façon, parce que bon, mais vous en trouvez toujours de nouveaux. Ben, il y a des artistes émergents, bien sûr, mais quand même, il reste que c'est le défi numéro un, hein, de trouver les artistes.
Il y a de très grands défis à travers ça, mais je dirais que souvent on oublie, on a souvent une vision très québéco-centriste d'une programmation, mais on est autant en compétition avec Hong Kong qu'on l'est avec l'Europe lorsqu'on parle de chercher des artistes internationaux. Donc le défi est extrêmement grand à ce niveau-là, où on doit être capable d'accoter les offres qui viennent de partout dans le monde si on veut un artiste qui est connu partout dans le monde aussi. Donc le défi est davantage de ce côté-là pour se démarquer, mais on y tire notre épingle du jeu là, avec brio chaque année, là, mais ce n'est pas sans effort, effectivement.
C'est ça, et d'être le plus généraliste possible, bien entendu. Alors voilà, donc un 20e anniversaire qui se fête en grand, dans le sens que vous avez ajouté au moins une journée de plus, là.
Oui, on a ajouté une journée de plus. C'est vraiment une direction dans laquelle on s'en va, où les gens nous en demandent et nous en redemandent. Il suffit d'être capable de pouvoir leur livrer. Mais oui, on ajoute une journée de plus, et on ajoute aussi une expérience très différente. C'est extrêmement dur à dire sans montrer, mais on a un projet, là, c'est vraiment une façade de 240 pieds de large, près de 30 pieds de haut, avec énormément d'éclairage, des artistes muralistes, des effets spéciaux, dans lesquels les spectacles vont être présentés durant les soirs. Fait que c'est vraiment deux angles différents où on veut grossir en termes de nombre de jours, mais grossir aussi dans l'expérience des gens qui vont venir participer.
Oui, c'est ça. Donc, alors vraiment, ça, c'est à la fois bon une nouveauté en quelque sorte, là. Mais vous aviez, bon, c'est un festival qui a quand même toujours remporté beaucoup de succès. Vous accueillez, quoi, bon an, mal an, à peu près, quoi, 35 000 spectateurs?
Exactement. C'est sûr que ça varie d'année en année selon la température, le niveau de tourisme, les gens, mais on passe toujours de 25 à 50 000 personnes là, selon les années là, pour venir passer parce qu'on se retrouve à avoir 5 scènes sur lesquelles les artistes performent. On a des scènes gratuites au centre-ville, on a des scènes pour les après-spectacles, on a des scènes ben, naturellement nos scènes principales. Donc ça fait qu'il y a beaucoup d'actions, puis il y a beaucoup de gens qui se promènent observer tout ça, puis surtout généralement durant les feux d'artifice. C'est vraiment toute la ville qui peut en profiter aussi. Donc, c'est vraiment beaucoup de monde dans une ville comme la nôtre, en région éloignée. C'est vraiment toute une ambiance.
Bon, alors c'est ça. Maintenant, ça commence le 9 août. Hein? C'est un événement qui se déroulera à partir du 9 jusqu'au 12 août, hein, on le précise. Et puis, alors ça commence le 9 août. Ça se trouve être le mercredi. Donc, une plus petite programmation pour commencer. C'est la journée que vous avez, en fait, c'est la journée de plus, finalement, qu'on a cette année. Alors, ça commence par, évidemment, on va retrouver un groupe montréalais, notamment.
Oui, exactement. C'est les Lendemains de veille qui sont un groupe que avec qui on travaille avec beaucoup de proximité là, dans différents projets, mais qui n'étaient jamais venus à Cisco en Lumière. Donc, on est vraiment content de les recevoir parce qu'ils ont été beaucoup demandés. C'est vraiment une soirée de party là, qu'on va faire avec eux. Puis les gens étaient très contents aussi parce qu'on veut toujours s'assurer d'avoir une touche ou un artiste qui est à notre tête d'affiche, qui est quand même un artiste québécois, même si on se dirige davantage vers des artistes d'ampleur internationale. On veut quand même garder là, de regarder d'où on vient. Là,
exactement. Il y a Petit Gros Bison et Pourpre aussi.
Exactement. C'est sûr qu'on est des grands connaisseurs de musique dans le bureau. On adore présenter des groupes un petit peu moins connus puis dynamiser la soirée. Et ceux-là, c'est vraiment des performances incroyables, mais aussi des personnalités scéniques vraiment très agréables. Donc, on est très content de les recevoir. Le Petit Gros Bison est presque à sa 7e passage en 3 ans à Rouyn-Noranda parce que les gens le demandent et le redemandent. C'est devenu une sorte de notre coqueluche régionale là, que les gens ont hâte de revoir, même s'il vient de la Rive-Sud.
Bon, alors écoutez, c'est un artiste que je ne connaissais pas du tout. Et puis, je vous avoue que j'ai couvert beaucoup de festivals durant cet été grâce à cette émission. Et puis là, effectivement, c'est vraiment pour moi une nouveauté. Alors, vous êtes, c'est un peu spécial, là, finalement, de retrouver des artistes. Enfin, lui, je ne l'ai pas retrouvé nulle part ailleurs, pour l'instant, en tout cas. Et puis, mais il est très en demande, de toute façon. Et le jeudi 10 août, là, on tombe dans autre chose. Alors là, on s'en va plutôt du côté du hard rock.
Exactement. On va du côté du hard rock. Puis on a chaque année une soirée punk ou une soirée alternative dans laquelle on a reçu des gros noms comme des Offsprings, des Sum 41, des Rise Against. Donc, on a vraiment un public là, qui est très avide de ça ici dans la région et à l'extérieur qui se déplace. Donc, cette année, on y va avec 3 Days Grace, qui va être aussi précédé par des groupes comme Lubic, qui est un groupe du coin aussi, mais qui fait un retour spécialement pour ça, qui, régionalement, est extrêmement connu et apprécié. Death Proof, Astral Gates, The Naked High, qui sont des groupes dans la catégorie, dans les mêmes styles aussi. Donc, ça va être une soirée tout en guitare.
Eh oui, donc, c'est ça. Ça s'annonce pour être un franc succès, évidemment, donc... des gens bien connus dans le domaine. Et puis, on a aussi, d'autres, la soirée de vendredi, là.
Oui, exactement. De ce côté-là, on va recevoir Deadmau5, qui est un artiste de musique électronique dans les top DJ sur cette planète. Et il y a quelque chose d'une très grande fierté. Ça ne fait pas vraiment de sens, pour être honnête, de recevoir un artiste de cette ampleur-là à Rouyn-Noranda. C'est ça qui est complètement génial dans ça.
qui est Donc, magique, oui, c'est ça.
Exactement, c'est une magie. Puis les gens ne s'y attendaient pas, ne l'ont jamais demandé parce qu'on était dans la catégorie de l'impossible. Et là, on est vraiment content de pouvoir le recevoir. Là, c'est vraiment une fierté de l'accueillir sur notre sol.
Ah, c'est super,
oui. Oui, exactement.
Et puis des rappeurs également, oui.
Exactement, avec Ken Lo, on a aussi Naya Ali qui va être là, Naomi, mais on a aussi des DJ locales qui sont dans la musique électronique. On a vraiment mélangé les deux styles pour que ça soit peut-être plus accessible aussi, mais que ça soit varié comme soirée. On pense que ça va être une soirée, la thématique, c'est que ça va être une soirée très dansante aussi, là, avec Sean, avec Mamie Lou qui va être là. Donc, on est très contents de cette soirée-là.
Ah, et puis bon, évidemment, cette soirée de clôture samedi, et puis, bon, avant, c'est-à-dire qu'il y aura Charlotte Cardin, oui, qui sera là, bien sûr. Et puis, bon, normalement, c'est suivi de feux d'artifice, mais là, on comprend qu'il n'y en aura pas cette année, c'est sûr. Mais il y a les spectacles aussi de Clay and Friends, entre autres.
Exactement. On reçoit Clay and Friends qui vont nous faire danser, qui sont, en tout cas, du moins, qui sont les artistes, je ne veux pas dire de l'été, mais c'est des artistes estivaux. C'est le fun de célébrer avec ce genre de groupe-là. On a Claudia Bouvette aussi qui va venir. On a Lova et plusieurs autres là, comme qui vont être présents. Donc, on est vraiment... celle-là, c'est une soirée où on s'attend beaucoup de monde sur ce spectacle-là. C'est un samedi soir. Il annonce beau. Ça va être très agréable.
Ça c'est vraiment oui, au moins il annonce beau. Ben écoutez, ça va faire du bien là, la population de Rouyn-Noranda. Bon, évidemment très éprouvée aussi à toutes sortes de niveaux là. Alors ben écoutez, je vous souhaite d'en profiter pleinement et puis c'est ça, donc un été qui a pas été facile, mais enfin on va souhaiter que en tout cas que vous ayez un beau festival Osisko en lumière 2023 et puis on va justement nous entendre Claudia Bouvette justement dans un instant. Alors, Frédéric, ça nous a fait plaisir de vous recevoir et puis on encourage les gens à aller vous voir du côté de Rouyn-Noranda.
Ben, un énorme merci. Bon été à vous.
Bon été, bonne fin d'été, effectivement. Merci, au revoir.
Claudia Bouvette qui chantait Solo Night. Si vous avez aimé, sachez qu'elle sera au festival samedi le 12.
Et oui, le festival Osisko en lumière 2023. Donc, événement où on entend de la musique rock, pop et électronique. Voilà. Alors, on accueille tout de suite Alexandra Bachand, qui est une artiste parfumeur, cofondatrice de la Grange du Parfumeur. Bonjour.
Bonjour, Chantal.
Ah oui, on plonge dans le monde des odeurs. Alors, c'est vraiment... ça va être enivrant, je pense.
Oui, alors, moi, oui. Je tiens en fait un festival, c'est notre quatrième édition du Festival Parfumé. Ça a débuté en fait le 1er juillet et ce sera jusqu'au 19 août prochain. Et puis c'est ça, donc c'est en extérieur, c'est dans mon petit jardin de senteur. C'est un jardin de parfumeur que j'ai aménagé en fait au fil des années. Ça borde mon atelier, c'est l'endroit dans les cantons de l'Est.
C'est ça.
Où je compose le parfum.
Alors donc, c'est ça, vous êtes effectivement installé dans les cantons de l'Est, à Magog plus précisément. Vous avez votre grange du parfumeur, un endroit bucolique à découvrir évidemment. Alors c'est ça, et ça c'est vraiment depuis à peu près quoi, 5 ans que c'est ouvert?
Alors j'ai ouvert l'atelier au public précisément en 2017. Mm-hmm. J'avais commencé à proposer mes premiers parfums, mon premier parfum en 2015 sur la boutique en ligne. Et puis c'est la composition d'un parfum, ça se fait vraiment, moi en tout cas je le fais dans la lenteur de mon atelier, et surtout durant les mois d'hiver. Donc c'est quelque chose qui se fait dans vraiment lentement, progressivement, puis ça s'ajoute à la collection que je propose.
Ouais. Ah oui, c'est vraiment, écoutez, on va parler de votre parcours parce que c'est particulier. Vous étiez d'abord artiste peintre, à la base, et puis finalement, passé du monde des couleurs au monde des odeurs. Alors, qu'est-ce qui vous a fait vous diriger vers la parfumerie tout d'un coup?
Alors, ça s'est fait vraiment tout à fait naturellement dans ma démarche de création. C'est sûr que j'ai un intérêt pour l'odorat. Ça me suit comme je dis vraiment depuis l'enfance. Mais j'étais pas consciente petite que c'était un métier que je pouvais faire.
J'avais jamais entendu. Vous avez une histoire de famille derrière ça finalement. Hein? Je pense que c'est votre grand-mère qui avait un jardin.
Oui, moi j'ai une histoire de famille en fait entourant vraiment les jardins. Donc oui, j'ai une famille où mon arrière-grand-père, mon grand-père, ses frères et là ses fils étaient maîtres jardiniers. Donc j'ai grandi entourée de fleurs, les jardins. Mes souvenirs de ma grand-mère, c'est d'aller la voir dans sa serre, puis de la regarder travailler. Puis elle était tellement patiente. Chaque petite pousse avait son histoire, puis c'était quelqu'un qui voulait vraiment. C'est ça. Elle était inspirante dans sa façon de jardiner, puis dans sa personnalité aussi. Elle avait, je pense que à 90 ans, elle a fait une exposition de petits signets qu'elle peignait à la main. Donc les arts aussi. Ma mère a fait les beaux-arts également. C'est vraiment, on est dans l'univers de la création et de la botanique, je dirais, dans la famille.
Et puis donc l'aspect olfactif, vous l'avez développé très jeune, mais en plus dans vos, c'est-à-dire qu'au niveau de la peinture, vous avez créé vos propres pigments aussi. Et donc,
j'étais dans l'exploration. C'est que moi, j'aime fabriquer. J'aime, dans un médium, ce que j'aimais, c'est que j'étais comme une touche à tout, comme on pourrait dire, là, c'est que j'aimais, tu sais, façonner, fabriquer, faire naître de la matière une émotion, une histoire. Puis, je me rappelle petite, notre terrain, c'était de la glace. Quand on creusait, là, tout de suite, j'avais découvert un petit endroit où, avec une petite pelle, j'avais de la glace, puis je façonnais des petits personnages. Donc, toucher à la matière, puis lui donner vie, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Et puis, à un moment donné, j'ai comme eu une épiphanie, qu'on pourrait dire, en allant faire un voyage avec une amie en Europe, j'ai réalisé qu'il y avait des maisons de parfums, qu'il y avait des parfumeurs, que cet univers-là existait. Et puis ça m'a vraiment fascinée. J'ai pris conscience mais je me voyais pas faire ce travail-là. Je suis pas quelqu'un qui se retrouve dans un laboratoire j'ai besoin d'être, continuer à être en création, puis être dans la matière, puis d'une façon vraiment artistique. Et indépendante, mais ça m'a fait réfléchir. Et puis, je m'étais dit, à un moment donné, j'avais terminé une exposition, je me suis dit, ben, ma prochaine exposition, il y aura plus juste de la photographie, de la peinture, tout ça. Je vais intégrer le parfum. Mais je savais pas comment encore.
Intéressant.
Mais j'ai commencé donc à acheter des choses, à commencer une petite formation. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait comme tout un monde qui s'ouvrait pour moi avec l'odorat. Puis j'ai réalisé que c'était en moi, ça, la création de parfums, parce que je vis beaucoup les sens de façon interreliée. Là, on appelle ça la synesthésie.
Donc, quand
on sent et on voit des couleurs en même temps, c'est un peu comme tous les sens qui s'entrecoupent, là, qui sont liés.
Ouais.
Donc, c'est quelque chose qui est facilité en moi, je pense, par rapport à cette faculté-là.
Ouais. Les odeurs qui déclenchent chez vous, tout de suite, ben, chez bien des gens d'ailleurs, une émotion, ça ravive tout le monde, effectivement. Ça ravive des souvenirs, d'ailleurs. On pense aux souvenirs de voyage, c'est un peu ça, souvent. Hein, on se remémore, c'est les odeurs qui viennent nous chercher souvent pour nous rappeler un souvenir ou une émotion.
Mais oui, vous avez tellement raison. C'est la mémoire. C'est une mémoire qui est plus forte, je dirais, que même que le visuel. Parce que on fait un voyage, on prend des photos, on a un album, puis on s'y replonge des années plus tard. Puis des fois, on peut même être surpris par une photo en se disant, ah, ben, je me souvenais pas de ça. Je me souvenais pas que j'étais allée là. Je me souvenais pas. Tandis que si vous ressentez une odeur que vous avez associée durant ce voyage-là, ça va vous suivre à vie. Vous allez toujours revivre l'émotion de ce voyage-là, mais avec vraiment l'intensité d'y être. C'est ça qui est fascinant, c'est que l'odorat, c'est la machine à voyager dans le temps, littéralement, là.
Ah, j'adore ce que vous dites, là, effectivement. La machine à voyager dans le temps, c'est une belle image, c'est tout à fait ça. Alors, vraiment très fort que tout ce côté olfactif qui est très développé. Et puis, en fait, vous aviez besoin d'aller chercher ce côté-là pour exprimer peut-être les histoires, les émotions, les souvenirs que vous n'arriviez peut-être pas à exprimer autant en peinture, au fond.
Exactement. Puis après, c'est que pourquoi je fais des portes ouvertes de mon atelier, c'est que j'ai envie de faire découvrir
tout ça
avec
aux gens,
vraiment, oui, mais avec authenticité, la façon, ma vision de l'odorat, ma vision.
Ouais.
De l'art du parfum, puis...
Ouais. Et alors, Alexandra, je vais vous interrompre parce qu'on va faire une petite pause, mais on revient tout de suite après, alors ce sera pas long. On continue.
Avec plaisir.
OK.
Écoutez, aime l'été.
Et je continue ma discussion avec Alexandra Bachand, artiste parfumeur, cofondatrice de la Grange du Parfumeur, qui a organisé, un festival, le Festival Parfumé au Jardin des Senteurs de la Grange du Parfumeur. Alors, c'est jusqu'au 19 août. Et Alexandra, vous étiez en train de nous dire que c'est cette expérience sensorielle, olfactive, qui ravive souvent la mémoire, enfin, les souvenirs. C'est cette expérience que vous vouliez faire partager, là, visiteur, finalement.
En fait, c'est que j'ai envie de parler de l'odorat. J'ai envie que les gens se déposent pour venir sentir, parce que c'est quelque chose qu'on oublie de faire dans notre quotidien. C'est un sens qui est négligé. Je sais qu'avec la COVID, ça nous a fait prendre conscience de son importance. Mais encore, peut-être pas assez, pas d'une façon assez poétique. Dans la vision que j'ai de ce sens-là. Puis ben c'est ce que j'ai envie de partager aux gens qui ont envie de se déposer au Jardin de Senteur, puis à l'atelier, c'est d'avoir l'ouverture de sentir une collection haute parfumerie québécoise, d'avoir cette curiosité-là d'encourager la création d'ici, mais vraiment de partager à quel point l'odorat peut faire voyager. Et la façon que j'ai aménagé mon jardin, parce que j'y mets beaucoup d'attention, de passion, c'est de... Comment je pourrais dire? C'est parce que j'aime que, en fait, le parfum se déploie différemment. Parce que on pourrait venir sentir de façon plus classique à l'atelier le parfum, comme ce qu'on peut imaginer. Mais c'est moins en adéquation avec l'univers dans lequel moi je crée et avec la poésie qui m'habite par rapport à cette collection-là et surtout avec cette profession-là. Donc, de se déposer au jardin dans la façon que je vous reçois, c'est tout intimiste, mais c'est vraiment un moment, moi je trouve, de pur bonheur que de s'enraciner dans un jardin, de prendre le temps. Déjà, on peut des fois aussi voir des belles floraisons de fleurs à parfum. Et puis magnifique. Parce que le jardin est aussi certifié par Espace pour la vie comme oasis nourricière pour les insectes pollinisateurs, les colibris. J'ai beaucoup de papillons monarques plus rarement, mais on peut en voir à l'occasion. Puis c'est vraiment de se déposer dans la lenteur, puis de vivre un voyage, parce que aussi la collection, je vous la fais découvrir, mais à l'aveugle. Et donc ça, c'est ce que je trouve qui est la
quelle façon de faire absolument, oui, charmante, oui, c'est vraiment c'est l'expérience que l'on vit finalement.
Oui, c'est toute ça. L'expérience. J'ai pas envie qu'on soit comme trop d'un point de vue rationnel sur quelle note, quel accord, quel si. C'est sûr que toute cette nomenclature-là, elle est importante. Moi, ça fait partie de ce que je dirais, équilibrer, harmoniser dans mon travail.
Ça, c'est dans votre pratique à vous, mais oui, vous voulez pas que ça soit une expérience trop intellectuelle, finalement.
Exactement. J'ai envie qu'on reste au niveau de la poésie. Et c'est ça qui m'habite. Et puis, je trouve que de le faire à l'aveugle dans un jardin, pour moi, c'est de vraiment de vous accueillir, tu sais, comme de la plus belle façon, puis c'est de dérouler le tapis rouge pour les gens qui viennent sur place.
C'est bien dit, ouais.
Puis
tout à fait.
Je pense que ça crée vraiment de la beauté, puis c'est ma façon de pouvoir partager cet univers-là qui est si précieux, puis voilà,
c'est une belle initiative. Bon, d'abord, vous êtes, comme on l'a dit, vous étiez à la base artiste peintre, donc vous aviez toute cette sensibilité artistique. Mais bon, vous êtes allé étudier quand vous avez eu votre coup de cœur là à la suite d'un voyage comme ça en Europe. Vous avez découvert vous aussi tout l'univers du parfum finalement. C'est ça. Vous êtes allé vous former en Angleterre, je pense, hein?
Alors, pas sur place en Angleterre. Ça s'est fait à travers une formation qui était à distance. Physiquement, je suis allée prendre des cours sur la chimie du parfum, tout ça. Ça, c'était en France. Mais mon parcours, je l'ai laissé ici échelonné, je dirais, sur plusieurs années, de façon plus pointue. Parce qu'en même temps, c'est comme toute forme d'art. Quand on commence à apprendre quelque chose, il y a beaucoup d'informations, puis il faut se pratiquer. Il y a toute une compréhension, je trouvais, aussi sensorielle dans la façon que moi je le vivais, de découvrir les matières premières, puis de découvrir l'harmonie. C'est quelque chose qui s'acquiert pas de façon intellectuelle si rapidement que ça, je dirais. Et puis, c'est ça. Moi, j'ai fait ça.
C'est beaucoup plus instinctif, finalement. D'ailleurs, votre démarche en tant que peintre, en fait, toute votre méthodologie, votre façon de travailler dans l'authenticité, comme vous l'avez dit aussi. Bon, alors tout ça, ça vous a en même temps forgé comme artiste parfumeur, si on peut dire, oui.
Mais oui, parce que c'est... Prenez par exemple comme la musique. Oui, on peut faire les grandes écoles. Après, c'est le rapport que vous allez avoir avec votre instrument. C'est le temps que vous allez y allouer. C'est toute la démarche, l'intégrité de l'artiste et avec le temps qui va faire que vous pouvez devenir un musicien, une musicienne accomplie. Ben, c'est un peu l'approche que j'ai aussi par rapport à la parfumerie. C'est qu'au-delà de où on va chercher une formation, c'est comment on intègre intérieurement ce lien-là fort qu'on a avec notre art. Mm-hmm. Puis comment on développe aussi sa propre culture face au parfum, parce qu'après, il y a toute la richesse d'aller découvrir au niveau historique ce que les autres ont fait,
c'est une culture incroyable, hein? C'est vrai,
cet aspect-là, tout à fait. Oui, c'est important de comprendre l'histoire des parfumeurs avant nous. Donc, il y a toute une culture aussi qui est importante à un moment donné de s'enrichir.
Puis que vous pouvez partager, bien sûr. Et puis, bon, comme vous êtes artiste peintre, vous signez finalement le design aussi de vos parfums, oui. Tout ça. Ben, vraiment, oui. Toute l'élaboration là, qui se fait par la suite. Enfin, c'est tout un processus, bien sûr. Et puis, vous avez développé des parfums. Bon, d'abord, ces rencontres-là, vous les faites en plus sur réservation. Hein? Ça, il faut bien le dire.
Alors,
déjà.
On peut arriver sans réservation. C'est possible de le faire. Il y a des journées qui sont plus tranquilles que d'autres. Et puis, à ce moment-là, je vais pouvoir avoir une table pour vous au jardin sans que vous ayez réservé. C'est sûr que c'est des fois quand on file de la route, si on habite à longue distance de l'atelier, bien, c'est bien de savoir au préalable que quand vous allez arriver, bien, que vous serez attendu. Ça, c'est dans ce sens-là.
Et lorsque on est à mobilité réduite en passant ou pour oui. quelqu'un qui est même non-voyant, comme vous faites oui. aussi sentir à l'aveugle, ben, enfin, façon de parler, là, donc c'est, oui. c'est vraiment intéressant. Alors, on peut...
Jardin est facile d'accès, surtout que ça, je l'ai revu, j'ai mis beaucoup de travail dans le réaménagement depuis l'année dernière d'un nouvel espace au jardin qui est encore plus accessible. Et puis, j'y ai ajouté un petit chapiteau double. Mais c'est on le sent pas, le chapiteau, parce que le jardin, j'ai beaucoup d'arbres, c'est des arbres matures, tout ça. On l'aperçoit quasiment même pas qu'il y a un chapiteau, mais il est là, il est caché sous les arbres. Et ça permet que beau temps, mauvais temps, je puisse vous recevoir, que vous serez pas perturbé par la température. Puis cette année, c'est d'autant plus
Important, bien
adéquat,
sûr. Oui, adéquat. Mais enfin, donc, vous avez développé des marques, des parfums artisanaux. Oui. Bien sûr, pour les gens, d'ailleurs, qui ont peut-être des intolérances ou enfin des... bien sûr, et puis c'est ça. Je pense que découvrir le monde du parfum, c'est découvrir un paquet d'aspects parce que, bon, évidemment, le matériau principal, c'est la peau aussi, hein, qui est bien sûr de découvrir comment oui. nous va un parfum à travers tout ça. Et puis, bon, c'est tout un. Il y a plein d'aspects, évidemment, dont on n'a pas parlé.
Il y a plein d'aspects, mais c'est tout ça sur place, vous allez pouvoir prendre le temps de le vivre parce qu'au jardin, le temps s'arrête. C'est vraiment. C'est la poésie du jardin qui permet au parfum de s'éveiller. Donc ça, il n'y aura pas de souci. Vous allez vraiment pouvoir prendre le temps de vivre tout cette intimité-là qui est nécessaire avec la découverte d'un parfum. Puis après, dans ma pratique, c'est ça. J'expose toujours, mais j'expose des sculptures, des installations qui sont parfumées. Donc ça aussi, c'est poursuivi dans ma démarche.
Ouais, ça complète un petit peu la visite. Ouais. Et puis en tout cas, ben, on en saura davantage en
tout
allant
fait,
vous voir parce que je sais qu'il y a des choses dont on n'a pas pu discuter. Mais bon, par exemple, vous utilisez de l'alcool. Vous utilisez un alcool particulier, puis bon, en fait, oui. vous vous approvisionnez à la SAQ notamment, mais il a fallu quand même que vous travailliez fort aussi avec les gens de la SAQ pour avoir accès à ce type d'alcool, ou enfin, bon, je pense...
C'est bien dit.
C'est au niveau de la concentration, mais enfin...
Oui,
donc, des parfums, je pense à une autre toilette sous le nom de Rêve à Paris, c'est ça?
Oui.
Et oui.
Ben, Rêve à Paris, c'est le début de l'histoire.
Et oui.
C'est ce voyage en question avec une amie. Donc c'est le premier que j'ai lancé parce que j'avais besoin de raconter la genèse du départ. Puis mais chaque parfum a une petite histoire comme ça. Mais après, ce qui est important, c'est comment les gens le vivent. Moi, je suis juste là pour permettre que le parfum puisse se déployer, que les gens puissent se déposer. Mes histoires sont... Moi, ils me portent pour la composition, mais après, c'est l'histoire des gens qui est importante.
Exactement.
C'est les rencontres et les belles discussions qui émanent au jardin qui me nourrissent aussi ensuite.
Ouais, et qui font la différence aussi pour
Exactement.
Le visiteur. Donc, Alexandra Bachand, ben, vous avez mené ce projet, évidemment, avec votre conjoint aussi. Alors, vous
oui.
êtes installée dans la Grange du Parfumeur, située en hauteur du lac Memphrey-Magog. Alors, magnifiquement situé. Alors, on ira vous voir, effectivement. Donc, et ce festival qui se tient présentement, c'est jusqu'au 19 août, ce festival parfumé au Jardin des Senteurs de la Grange du Parfumeur. Voilà.
Merci infiniment.
Merci
Chantal,
beaucoup.
Ce beau moment parfumé.
Ah, ça a été agréable, effectivement. On aurait
oui.
pu en parler longtemps.
Mais merci, au plaisir de vous recevoir.
Merci, assurément. Au revoir.
Au revoir.
Freedom, 'cause it's all we got. You may not like it, but we never stop. free B&M fire.
La chanson Freaks de Ska Sound System qui seront au festival dont vous allez nous parler le 18 août à 21h.
Et oui, le festival Virage, et je m'entretiens avec Yann Seegers, cofondateur. J'ai de la misère avec ce mot-là aujourd'hui. Ce sont tous des cofondateurs. Alors voilà, cofondateur du festival. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Eh bien oui, alors c'est ça. Tantôt, j'avais aussi un cofondateur, puis j'avais du mal à dire ce mot-là, je ne sais pas pourquoi. Bon, écoutez, ben, ça me fait plaisir de vous accueillir parce que c'est un festival que je ne connaissais pas, mais enfin, c'est un lieu en même temps de réflexion, de discussion. C'est plus qu'un festival, là. Bien sûr qu'il y a un volet culturel, mais c'est bien, c'est tout à fait autre chose. Et là, vous êtes à Petit-Saguenay, hein, précisément. Vous avez déménagé, je pense, de lieu.
Ben effectivement, le festival Virage a pris naissance en 2015 à Sainte-Rose-du-Nord. Et puis l'objectif du festival, en fait, c'est effectivement du festival parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. C'est-à-dire qu'il y a dans l'avant-midi et dans l'après-midi, il y a toute une série de conférences, d'ateliers, de tables rondes autour de sujets qui touchent ce qu'on appelle la transition sociale et écologique. Donc, quand on parle de transition, c'est comment est-ce qu'on peut s'adapter aujourd'hui, là, ici et maintenant, aux enjeux qui nous préoccupent, c'est-à-dire les changements climatiques.
Bien sûr.
Ouais, les enjeux politiques, les enjeux de redistribution des richesses, de pauvreté, toute la question énergétique, par exemple. Donc, ce sont toutes sortes d'enjeux comme ça qui sont de l'ordre de l'actualité et qui nécessitent, en fait, des transformations qui sont majeures, en fait. Fait que là, le festival est vraiment dédié à ces enjeux de transition sociale et écologique, mais à ça, on va mêler les arts de toutes sortes de disciplines. Donc, effectivement, là, on entendait Ska Sound System, donc évidemment, il y a de la musique, mais il y a aussi du théâtre, il y a aussi des artistes du feu qui sont présents, il y a de la poésie, il y a de la danse, il y a de la peinture, et tout ça comme forme une espèce de méli-mélo, tout ça s'enchevêtre pour donner l'essence, en fait, à un lieu de dialogue où il y a un esprit à la fois de fête, mais à la fois de réflexion profonde sur les enjeux.
Une sorte d'écosystème culturel aussi autour de ça, oui. Mais évidemment, bon, il y a ces enjeux-là dont on discute, et c'est pas banal quand même dans le cadre d'un événement comme le vôtre en plein été. Ben là, on décide finalement de se poser et de discuter parce que vous réunissez bon nombre de gens. D'abord, juste dire pour les gens là, que vous avez, d'abord, vous êtes enseignant en éco-conseil à l'Université du Québec à Chicoutimi, voilà, c'est ça?
Chicoutimi, oui.
Et vous êtes impliqué dans le Grand Dialogue régional pour la transition. Donc, vous êtes, bien sûr, au cœur de bien des discussions. Alors, vous allez accueillir quand même, je pense, entre 300 et 500 personnes?
Bien, c'est difficile à dire à ce moment-ci, mais la dernière édition du festival, il y avait environ 500 festivaliers qui sont venus. En plus de tous les artistes et conférenciers.
Ouais, quand même. Donc, alors, ça fait du monde qui peuvent réfléchir, discuter. Comme vous dites, il y a des tables rondes, des conférences. Alors, un lieu de réflexion en même temps. Parce que c'est un enjeu, bon, planétaire. En fait, tout ce dont vous nous avez parlé, bon, bien sûr, changement climatique et tout. Mais évidemment, au niveau politique, il y a plein de choses à considérer, là, au niveau socio-politique. Bon, maintenant, au niveau régional aussi, il y a des choses aussi, des enjeux importants.
Oui, tout à fait. On a même une table ronde là, qui va avoir ce qu'on appelle une conversation sur la ruralité. Comment est-ce que les villes et les villages en région sont aussi capables de s'adapter? Puis c'est pour ça qu'on fait ça à Petit-Saguenay, parce que le village de Petit-Saguenay, avec la mairie qui est actuellement au pouvoir, disons ça comme ça, elle a vraiment décidé de prendre les enjeux socio-écologiques en main, tant au niveau de l'habitation, tant au niveau du bâti, au niveau aussi d'une planification à long terme en termes de développement durable. Donc, tu sais, il y a comme quelque chose à Petit-Saguenay qui se passe, là. Et évidemment, on va toucher des enjeux qui touchent l'agriculture, le logement, parce qu'on parle de crise du logement, on en parle sans beaucoup parler à Montréal, mais la crise du logement, elle est aussi effective en région.
Également, oui.
Donc, ce genre de choses là qui vont être...
Et puis, vous accueillez de nouveaux arrivants également. Il y a quand même des nouveaux arrivants qui vont s'établir en région. Puis, tout ça, ces transformations ne peuvent se faire aussi qu'en présence aussi des Premières Nations.
Ça, c'est clair. Marie-André Gill, qui n'est pas présente ce matin avec nous, mais elle est la porte-parole. Donc, c'est une Innu de Mashoyab, donc la communauté qui est proche d'ici. En fait, on cohabite avec sur le Nitassinan avec les Innu de Mashoyab. Et oui, on peut pas faire la transition, on peut pas réfléchir à la notion de territoire sans discuter avec les Premières Nations. Ça, c'est un... Dès la première édition de Virage, on avait déjà cette préoccupation-là d'avoir cette conversation, puis essayer de trouver les bons ancrages pour discuter ensemble. Parce qu'on ne peut pas faire la suite du monde en excluant les Premières Nations. C'est impossible.
C'est impossible, bien sûr. Et puis, bon, alors, évidemment, les sujets seront variés, bien sûr. Donc, autant sur la manière, enfin, parler de justice sociale et environnementale, parler du futur énergétique, évidemment, et en région, on sait que, bon, il y a des enjeux très importants parce qu'on accueille, bien sûr, des industries aussi qui peuvent polluer, qui amènent, en fait, évidemment, on le voit, là, on en a des exemples, bien sûr, dans l'actualité, bien sûr, ces dernières années.
Oui.
Et en fait, ces dernières semaines aussi, en fait, ces derniers mois, bien sûr, on en a parlé beaucoup.
Ben là, ça dépend combien de temps j'ai pour l'entrevue, parce que ça, on peut en discuter assez longtemps.
Je sais bien.
Mais effectivement, là, il y a cet enjeu, en tout cas, pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a cette question très profonde de dire comment est-ce que on se projette dans le futur pas si lointain, là, pour les prochaines, mettons, 10 ans. C'est quoi le modèle de développement socio-écologique qu'on veut avoir? Parce qu'on parle souvent là, de région ressources, hein, de dire le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une région ressources parce qu'on a de l'énergie, parce qu'on a de la forêt, parce qu'on est capable de transformer donc ces ressources, entre guillemets, premières, pour être capable de l'exporter. Mais ce modèle-là, très énergivore, qui consomme beaucoup de matières premières, qui provient donc de la nature, comment est-ce qu'on est capable de voir autre chose que uniquement ces grandes entreprises là, qui sont souvent des entreprises extérieures, qui fonctionnent avec des multinationales, donc qui sont vraiment dans une économie capitaliste. Comment on est capable de
aussi voir d'autres manières de voir l'avenir dans les régions. Là. Puis ça, c'est une question majeure à se poser. Puis là, je ne pourrais pas rentrer dans...
Parce que c'est complexe, parce qu'effectivement, oui. On sait très bien que même en voulant bien faire, des fois, il faut s'interroger si c'est à savoir si on fait mieux, dans le sens que, bon, on sait qu'on va développer de nouvelles énergies, on va développer de nouvelles façons de faire, mais il y a bien sûr un coût à ça. Il y a, on pense à tous ces moteurs électriques qui demandent aussi des matériaux particuliers qu'on doit aller chercher. Et puis là, évidemment, on tourne en rond à un moment donné. Ça devient assez fou. Alors, ça amène beaucoup d'éco-anxiété également. Mais en fait, le bien-être individuel et collectif, évidemment, c'est au cœur de vos préoccupations. Solidarité internationale, tout ça, c'est important.
Mais pour le volet intérieur, là, on a tout ce qu'on appelle la transition intérieure. Là. Ça fait un petit peu grano de dire comme ça, mais si on le voit d'une autre manière, l'idée, c'est de dire que quand on vit de l'éco-anxiété ou de l'anxiété tout court, ou quand on se projette un peu dans le futur, puis ce qu'on voit, c'est quand même des scénarios qui sont un peu catastrophistes. Là, quand on lit tous les derniers rapports, quand on voit l'été qu'on a vécu au Québec avec les énormes feux.
C'est ça, et un peu partout dans le monde aussi, bien sûr.
Et un peu partout dans le monde. Donc, on peut pas maintenant se voiler la face, c'est-à-dire, OK, on peut pas poursuivre, en fait, la suite des choses comme on le fait aujourd'hui. C'est impossible. Il faut qu'on transite vers autre chose. D'où le mot transition. Hein, passer d'un état qu'on connaît vers un état qui est plus ou moins inconnu, mais dans auquel on veut tendre. Mais il y a tout ce volet qui est intérieur. Qu'est-ce qu'on fait avec nos éco-émotions? Qu'est-ce qu'on fait avec la colère? Qu'est-ce qu'on fait avec la tristesse? Qu'est-ce qu'on fait avec notre anxiété? Et ça, des sujets qu'on parle très, très peu, en fait, parce que ça vient nous toucher. Donc, Virage ouvre la porte, en fait, avec différents ateliers où on est capable, ce qu'on appelle l'éco-psychologie ou la transition intérieure, de discuter, en fait, de ce qui nous habite, comme en termes émotifs et tout ça, parce que c'est sûr que si on est habité par la colère puis qu'on veut transformer le monde, ben, notre vision, elle va être aussi empreinte de colère. Si on est plus dans l'empathie, ben, il va y avoir d'autres choses qui vont se passer. Puis des fois, on peut mélanger l'empathie, la colère, la rage et puis la bienveillance. Donc, c'est toutes sortes d'émotions qui peuvent paraître parfois contradictoires, mais qui habitent les gens qui sont dans le quotidien en termes d'activité.
Parce qu'en bout de ligne, la clé, c'est de se parler aussi, hein, c'est d'amener des discussions saines, des discussions ouvertes aussi sur des solutions. C'est ça l'avenir, au fond, parce qu'on s'en sortira pas autrement. Alors, si ça peut pas être chacun pour soi, là.
Non, c'est sûr que l'aspect collectif est au centre, puis la question du dialogue, là, elle est vraiment au centre du festival. C'est pour ça qu'on le veut, qu'il n'y ait pas trop de monde aussi, parce qu'autour de 400-500 personnes, on est capable de créer, à travers toute la programmation, on est capable de créer différents dialogues où les gens peuvent effectivement discuter, puis on peut se poser pour vrai. Puis les ateliers, tu sais, ils durent 1h30, 2h, donc on a le temps, en fait, on n'est pas pressé dans le virage. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, mais on a le temps de rentrer en profondeur dans les sujets, puis on a 3 jours pour le faire aussi. Donc, il y a comme une espèce de chimie qui se passe entre les différents intervenants, parce que les intervenants, bien, ils restent aussi dans le festival, donc on peut continuer la conversation avec eux puis avec elles pendant la journée puis le soir. Et puis, il y a cette espèce de dynamique aussi à travers les arts, aussi les arts qui sont là aussi pour nous ouvrir le cœur.
Oui, pour faire apporter des prises de conscience.
Exactement. Puis, tu sais, c'est pas comme, tu sais, virage, c'est pas, ah, ben là, on va parler d'enjeux politiques, sociaux, économiques, et à côté de ça, on a une programmation artistique.
Juste pour nous divertir, ça. C'est vraiment, c'est fusionnel, en fait, ouais.
Exactement. C'est vraiment considérer les arts comme étant un langage, comme étant une communication qui nous permet, en fait, d'avoir une vision du monde qui passe à travers un autre langage que celui de la parole. Donc, il y a comme cette espèce d'ouverture du cœur, d'ouverture de la tête là, que permet, en fait, les différentes disciplines artistiques. Donc, c'est vraiment comme une fusion entre la pensée et les arts créatifs. Parce que dans l'idée de transition, ben si on dit plus moins de bien, plus de liens, ben il faut essayer de travailler à développer des nouveaux types de liens. Puis les arts permettent de faire ça.
Ça permet ça, exactement. J'adore ce que vous dites et je suis vraiment très enthousiaste par rapport à ça. J'imagine que les gens réagissent fortement. Par le passé, vous avez dû avoir de belles expériences, des idées aussi qui ont émergé de tout ça.
Oui. Bien, ça, c'est ça qui est très intéressant. Là, on a pris une pause d'environ 5 ans, COVID et compagnie, puis c'est quand même beaucoup de travail d'organiser un festival. Et c'est pas notre métier premier. On a toutes sortes de jobs dans la vie. Mais cette année, en fait, on fait une espèce de retour. En fait, là, il y a eu 5 ans qui s'est passé avant la dernière édition.
Vrai.
2015, la première édition, puis Virage a contribué, je dirais, à l'émancipation de ce mot-là, de transition. Il a vu naître plein de groupes, en fait, dans Virage qui sont après ça. Parce que Virage a des gens de partout à travers le Québec.
Ça a inspiré d'autres, bien sûr.
Et ça a inspiré, en fait. Puis là, cette année, on essaie de faire un espèce de retour, donc des récits de pratique, des récits de lutte. Qu'est-ce qui s'est passé sur les communs? On a abordé le thème des communs, par exemple, à toutes les éditions. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Qu'est-ce qui se passe sur le terrain en termes énergétiques.
C'est ça, vous devenez une référence en quelque sorte, oui.
Ah, ben écoutez... Ça, c'est la force des choses a fait un peu ça.
Ben, en tout cas, on souhaite qu'il y en ait partout. En tout cas, là, présentement, on attend les gens à Petit-Saguenay, alors qui est déjà quand même dans une démarche de développement durable. Alors, écoutez, ça a été vraiment très intéressant et je vous souhaite longue vie. On se croise les doigts, là, bon, espérons, oui, parce qu'on est quand même très inquiet par rapport à l'avenir de plus en plus. Yann Seegers, cofondateur du Festival Virage, merci d'être venu nous en parler, ça a été un grand bonheur.
Bien, merci beaucoup d'avoir accordé du temps d'antenne pour notre festival. Alors, je vous invite tous à Petit-Saguenay, 18, 19, 20, où ça va être magnifique.
Merci infiniment, au revoir. Et j'en profite pour saluer tout le monde. Je vous retrouve demain à la même heure, entre midi et 13h, l'émission Aime l'été. Merci à Anaïs Sabourin à la recherche de l'émission et à Mathieu Tessier à la mise en onde et au choix musical. Ça a été un plaisir, Chantal Lavoie avec vous. Je vous reviens demain.